Sortie de boîte. Sortie de boîte, Alizée Lichty.
Certains paysages, êtres ou formes peuvent donner lieu à des projets tout à fait étranges. Vous avez probablement déjà entendu dire que les voyages forment la jeunesse. Eh bien, dans ce cas-là, les voyages ont donné lieu à, tenez-vous bien, un sac. S'inspirer d'une bête à poil pour créer un accessoire, c'est le défi que s'est lancé une jeune étudiante de l'École cantonale d'art de Lausanne. Il y a les sacs à main, les sacs de sable, les sacoches et bien d'autres types de sacs. Notre invitée a, elle, choisi le sac à dos, mais pas n'importe lequel. Lorsque je l'ai rencontrée, j'ai été impressionnée par la taille de sa création, un sac à dos pouvant contenir presque une personne debout. Elle est jeune, pleine d'ambition, un brin timide, elle est neuchâteloise et a 27 ans. Aurélia von Almen, bonsoir.
Bonsoir.
Pourquoi avoir décidé de créer un sac ?
J'ai décidé de faire un sac à dos car j'ai beaucoup voyagé seule à travers le monde et je me suis dit qu'il fallait créer un sac à dos directement pour les backpackers, spécialement conçu pour voyager, optimisé vraiment pour les aéroports, pour les bus, pour les avions et comme ça faciliter la vie à tous les backpackers qui partent à un moment donné de leur vie voyager.
Vous-même, vous étiez backpackeuse, c'est ça qui vous a donné en fait l'envie de créer un sac ?
Exactement, oui. J'ai pas mal voyagé en Asie du Sud-Est, en Australie ou encore en Amérique du Sud. Et c'est au long des kilomètres que je me suis dit qu'il fallait vraiment créer un backpack spécialement conçu pour les backpackers.
Vous me l'aviez dit lors de la préparation de cette émission, vous en avez vu beaucoup, des sacs à dos, vous en avez testé. Et puis la plupart, ils ont quand même quelques inconvénients, c'est lesquels ?
Par exemple, ils ont beaucoup de sangles ou de parties qu'on n'utilise pas forcément pour voyager. Donc c'est toutes ces sangles qui sont utilisées pour les piquets de ski ou pour les skis. Vraiment, pour voyager, on n'en a pas besoin. On va directement à l'essentiel, on a besoin de quelque chose d'optimal. 3 compartiments, un aspect réfléchissant et on n'a pas besoin de tous les atouts que nous offrent les autres sacs à dos.
Lors de votre travail de diplôme à l'École cantonale d'art de Lausanne, est-ce que vous étiez obligé de réaliser un sac ?
Alors non, pas du tout. On est libre de faire n'importe quel travail de diplôme qu'on veut, avec le feu vert des professeurs, bien sûr. Et quand je leur ai montré la problématique des sacs à dos quand on voyage avec les sacs qu'on utilise normalement, ils ont tout de suite donné leur feu vert et ils m'ont dit « Vas-y Aurélia, lance-toi dans ce sac à dos, il y a quelque chose d'intéressant à faire ».
Comment est-ce que ont évolué vos idées depuis le moment où vous vous êtes dit « Je vais créer un sac ».
Dès le départ, j'ai commencé à faire des maquettes. Donc j'ai vraiment utilisé des tissus faciles à travailler ou alors... J'ai pris des nappes qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc c'est vraiment en travaillant directement avec la matière, j'avais envie de faire le produit moi-même. Comme ça, j'ai un direct retour sur les problèmes. Et au fil du travail de diplôme, c'est vraiment en faisant de plus en plus de maquettes qu'on se rend compte des problématiques et comment les améliorer.
On imagine, un sac, ça ne doit pas non plus être tout simple à créer, tout simple à confectionner. Ça vous a pris combien de temps ?
Alors, je dirais que ça m'a pris du mois de février au mois de juin de réussir à faire un sac qui a vraiment une belle allure à la fin du diplôme. 5-6 mois.
Ce sac, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Est-ce qu'il a quelque chose d'innovant ?
Oui, il est innovant pour les backpackers. Son premier atout... Comme son nom l'indique, c'est koala, c'est que le petit sac à dos à l'avant vient se clipper sur les bretelles du grand sac à dos derrière. Comme ça, on forme une unité, on forme un avec nos deux sacs à dos. Et ça nous permet d'être en sécurité, d'avoir nos objets de valeur à l'avant et nos affaires comme les habits à l'arrière. Ça, c'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est qu'il est 100% réfléchissant. Il est fait avec un tissu qui s'appelle Cordura, faufilé avec un fil réfléchissant. Comme ça, ça nous permet d'être en sécurité quand on se balade au bord de la route. Et le dernier atout est qu'il est extrêmement minimal. Il a seulement 3 compartiments, il n'a pas de poche à l'extérieur. Il est vraiment simple.
Alors, on reviendra sur ce sac plus en détail tout à l'heure. Mais arrêtons-nous quelques instants pour parler de vous. Quel est votre parcours ?
Depuis toute petite, j'ai été baignée dans l'univers artistique de par mon père. Et après, avec ma famille, j'ai beaucoup voyagé. ce qui m'a donné envie de vraiment faire ce sac à dos. J'ai fait le lycée du Madro à Neuchâtel et ensuite, entre le lycée du Madro et l'école d'art, je suis partie voyager en Asie du Sud-Est, en Australie et en Amérique du Sud. Et ça m'a déjà donné envie de créer des sacs à dos en arrivant à l'école. Et la dernière année, le travail de diplôme où on peut réaliser notre projet qu'on a envie, me l'a permis.
Étant donné que vous avez baigné dans une famille artistique, est-ce que vous pensiez de toute façon vous diriger vers un métier design, vers un métier mode ?
Alors oui, depuis toute petite, j'aime créer, j'aime bricoler et j'ai toujours voulu m'axer dans un travail artistique. Et au fil des années, le design me plaisait de plus en plus. Et on a la chance d'avoir une très bonne école en Suisse qui est l'École à Renan. Et ça m'a permis de pouvoir réaliser mon rêve.
Est-ce qu'on peut dire que créer un sac, c'était peut-être un rêve de petite fille ?
Oui, je pense que ça peut l'être. Effectivement, j'ai toujours été quelqu'un qui aime bricoler et assez perfectionniste. Et en arrivant dans cette école qui nous demande d'être vraiment pointilleux sur nos prototypes, ça a d'une certaine manière réalisé un de mes rêves, oui.
Avec ce sac, vous avez quand même réussi à avoir une mention et une très bonne note, ce qui est assez rare à l'ECAL.
Effectivement, j'ai eu une note de 5,5 et une mention très bien. Et c'est pas facile à l'ECAL, car ils nous en demandent toujours beaucoup. Mais c'est vraiment une très grande fierté d'être arrivée à ce niveau-là avec mon sac à dos.
Est-ce que c'est ça qui vous a peut-être donné l'envie de poursuivre, de commercialiser votre prototype, votre sac ?
Effectivement, oui, j'ai eu beaucoup de retours positifs de la part de mes profs ou alors des experts qui étaient là lors des évaluations. Et ils m'ont vraiment poussée à me lancer dans la production du sac à dos. Ils m'ont dit que j'avais un très grand marché sur ce produit-là. Alors ça m'a donné la force de me lancer pour mon projet de diplôme.
Et pour vous lancer, est-ce que vous vous êtes lancée seule ? Qu'est-ce que vous avez fait pour commencer ?
Alors, après mon diplôme, j'ai pris des vacances. Et ensuite, j'avais quand même l'idée en tête de réaliser mon travail de diplôme. Et j'ai quelques amis qui m'ont soutenue. Une amie qui m'a toujours dit « Aurélia, si tu as besoin d'aide pour la communication, je suis là pour toi, tu peux compter sur moi ». Et après, j'ai rencontré un ami, Nico, lors d'un festival. Et il m'a aussi demandé... si j'avais besoin d'aide, alors j'ai accepté, donc on s'est retrouvés les trois dans le projet. Et le troisième de mes amis qui fait de la vidéo, qui m'a également apporté beaucoup pour tout le montage et toute la prise en charge de la vidéo.
Vous avez monté une sorte de start-up, on peut appeler ça comme ça ?
Oui, on peut appeler ça comme ça. Alors justement, on est les quatre, on a chacun un domaine différent, donc moi je suis vraiment sur le design, mon ami Odile sur la communication, mon ami Nico sur les finances et le marketing et Timothée pour la vidéo. Donc on complète chacun comme on peut pour la création des prototypes et de la vidéo sur Kickstarter.
Alors on l'a dit, on va parler plus concrètement, plus précisément de ces sacs qui sont quand même assez grands. Est-ce que vous pouvez le décrire à nos auditeurs ?
Alors oui, bien sûr, c'est un sac... D'abord, au premier aspect, il est bleu, donc il est sympathique, il est autant pour les hommes et pour les femmes. On peut voir qu'il a trois compartiments distincts, donc le compartiment du haut, le compartiment du milieu et le compartiment d'en bas. Toutes les ouvertures s'orientent dans le dos pour empêcher qu'on nous mette des choses dans le sac ou qu'on nous vole des choses. Et après, bien sûr, il y a le petit koala qui vient s'agripper au grand sac grâce à un système aimanté à l'avant. Comme ça, on forme vraiment un avec les deux sacs à dos.
Vous parlez de la couleur bleue. Pourquoi ce choix ?
J'ai choisi ce tissu bleu car c'est un tissu spécial faufilé avec un fil réfléchissant. Et je trouve qu'il correspond autant aux hommes qu'aux femmes. Et il est bleu avec les lanières grises. Et pour l'instant, je trouve que c'est important d'avoir ces deux couleurs car ça garde une identité du sac à dos.
Il est fait en quelle matière ? Est-ce qu'il est léger, lourd ?
Il est très léger. C'est un des avantages de ce sac à dos comparé aux autres. Et ce tissu est extrêmement résistant à l'abrasion. Donc malgré le fait qu'il soit léger, c'est un sac et un tissu très résistant.
Alors le premier prototype, vous l'avez créé vous, seul, de vos propres mains. Est-ce que c'était compliqué à faire ?
Alors oui, je ne vais pas cacher que c'était compliqué à faire. Les premières maquettes, Je me suis trompée plusieurs fois, j'ai dû recommencer. Presque au final, j'ai plus décousu que cousu. Donc vraiment, c'était pas facile. Mais au final, on prend le pli, on s'adapte. Et après 5-6 prototypes, j'ai réussi à faire le prototype final.
Est-ce que vous avez eu des cours de couture ou vous avez peut-être une aptitude particulière? Parce que moi-même, je me dis, même pour réparer un trou dans un pantalon, c'est compliqué. Comment est-ce que vous avez fait?
Non, je n'ai jamais pris de cours de couture, mais c'est vrai que depuis toute petite, j'aime bricoler. Et puis, je me rappelle avoir la machine à coudre à la maison et je faisais des objets pour moi ou des habits. Alors là, en prenant ce travail, en choisissant ce travail de diplôme, bah, ça m'a permis de m'améliorer, d'apprendre des choses. Et voilà.
Vous l'avez appelé koala, vous l'avez dit précédemment, en référence à un animal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors oui, il s'appelle koala. Car j'ai eu l'idée quand je suis partie voyager en Australie, donc j'ai fait toute la côte Est. Et j'ai eu cette idée de sac à dos pour mon travail de diplôme. Et en arrivant à la fin, on doit toujours choisir un nom à notre produit, ce qui est assez difficile généralement. Et je me suis dit que j'avais eu cette idée-là en voyage en Australie. Et j'ai choisi le nom koala en référence au bébé koala qui s'agrippe à sa maman, comme le petit sac à l'avant qui vient s'agripper au grand sac à l'arrière grâce à son système aimanté.
Peut-être les gens ne le savent pas, mais les gens qui voyagent ont souvent un sac à l'avant. Et puis un des gros problèmes, c'est qu'il y a la lanière qui descend. Vous, ça, vous y avez pensé?
Oui, très clairement, j'y ai pensé. On n'a jamais deux sacs qui s'accordent l'un à l'autre. On a toujours un grand derrière et le petit devant. Et les lanières, elles tombent. Et c'est très commun en voyage de courir prendre son bus, de courir prendre son avion. Et il y a toujours tout qui tombe et c'est jamais vraiment pratique.
Comment se passe le travail avec vos associés? Joël Picromain est venu vous rendre visite, écoutez son reportage.
Première particularité pour l'ouvrir, les fermetures éclair finissent dans le dos. Ça c'est pour éviter le vol en fait, tout simplement. Vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir façon valise. C'est-à-dire que si vous allez chercher quelque chose à l'intérieur du sac, vous n'êtes pas obligé de passer par en haut et puis de mettre votre bras jusqu'à l'épaule pour aller essayer de trouver ce qui se trouve au fond.
La paire de chaussettes dont on a besoin à ce moment-là.
À ce moment-là, exactement. c'est le même système de fermeture que pour les capuches, un petit peu. Et puis c'est des membranes qui sont à l'intérieur qui permettent de faire jouer le volume à l'intérieur du sac de la manière qui vous intéresse. Typiquement, au début du voyage, vous avez plein d'habits propres. Puis au fur et à mesure, vous avez de plus en plus d'habits sales. Plutôt que ça prenne des places bien précises, bah vous faites bouger les membranes, bah ça s'adapte. On a aussi la partie du haut qui s'étend comme ça.
Le tissu en lui-même, c'est quoi?
Alors c'est un cordura qui est faufilé avec du fil réfléchissant. Donc je ne sais pas si vous voyez là, si je mets le téléphone avec la lumière, il devient extrêmement réfléchissant, voire 100% réfléchissant quand on se balade au bord de la route et qu'il y a les phares des voitures qui passent. Comme ça, ça nous évite un accident car on est extrêmement bien vu durant la nuit avec la lumière. Il est résistant à l'eau et on peut se balader plusieurs heures sous la pluie, les habits ne seront pas mouillés. Quand on voyage également, on a toutes ces sangles dans les autres sacs à dos qui traînent. Et puis par exemple, quand on arrive à l'aéroport et qu'on veut mettre le sac dans la soute, dans l'avion, il y a la ceinture de serrage au niveau des hanches et des bretelles qui vont un peu dans tous les sens. Alors là, pour optimiser le sac au niveau de la simplicité, j'ai conçu le sac pour pouvoir enlever les bretelles grâce à des clips et puis enlever la ceinture de serrage. Donc on enlève ici avec le scratch. On vient mettre la ceinture et les bretelles dans le sac, comme ça, quand on envoie le koala dans la soute, il y a une seule unité qui s'en va dans l'avion. Comme ça, il n'y a pas tout qui traîne à gauche, à droite, puis ça ne va pas se coincer dans un tapis ou à une autre valise, et notre sac ne se retrouve pas à l'autre bout du monde, alors qu'on ne s'y attend pas. Donc toutes les fermetures éclair sont orientées dans le dos, comme le disait Nico. Et ensuite, elles se retrouvent toutes face à face, ce qui permet de mettre un cadenas pour dissuader les vols lors de transfert à l'aéroport ou aux douanes ou dans les trains. On ne se fait pas de soucis si on va nous mettre quelque chose qu'on n'aurait pas envie.
Sortie de boîte.
Après avoir réalisé ce prototype dans le cadre de vos études, vous vous êtes dit pourquoi ne pas le vendre? Quelle a été la suite de votre réflexion?
Pour relancer la production du sac à dos, forcément il faut du financement. Alors j'ai tout de suite pensé à faire une campagne de financement participatif, du crowdfunding, et je me suis dirigée vers la plateforme Kickstarter qui nous aide à avoir de la visibilité et de l'argent pour pouvoir lancer une production de 150 sacs.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette plateforme de financement et pas une autre ?
J'ai choisi cette plateforme de financement participatif car c'est certainement la plus connue actuellement et elle offre une visibilité internationale. Et vu que le backpacking l'est, on avait envie d'avoir vraiment tous les pays concernés.
Sur cette plateforme, vous avez la possibilité de choisir durant combien de temps dure la campagne de financement. Comment est-ce que vous avez fait pour faire ce choix ? C'est quand même un choix assez difficile.
On a le choix entre 30 et 60 jours. Et nous, on a décidé de couper la part en deux, simplement, et de faire à la moitié. On sait que les campagnes de Kickstarter les plus courtes marchent mieux dans les statistiques. Alors voilà, vu qu'on débutait, on s'est dit qu'on n'allait pas mettre les 30 jours, mais 42 jours nous paraissait être un chiffre correct.
Imaginons que vous n'atteigniez pas votre but. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez abandonner votre projet ?
Alors bien sûr que non, on va continuer, on va se battre. Et peut-être que Kickstarter n'était pas la meilleure solution. Et on va se battre pour trouver d'autres moyens pour produire le sac, car je pense vraiment que c'est un projet qui plaît. Et on trouvera une autre solution.
Ça veut dire quoi ? Vous dirigez peut-être sur de nouvelles plateformes ?
Soit de nouvelles plateformes ou alors se diriger directement dans des magasins spécifiques qui peuvent nous donner un soutien et une visibilité peut-être plus régionale ou en Europe et puis pas s'étendre sur un réseau international. Toucher déjà les personnes qui nous côtoient et qui connaissent le backpacking.
Est-ce que c'est difficile en étant jeune, à votre âge, en vous disant j'ai vraiment une idée qui plaît, une idée innovante, de vous dire en raison du financement, c'est peut-être foutu ?
Alors non, parce que j'ai toujours été battante, puis j'ai toujours voulu aller au bout de mes idées depuis toujours. Alors je suis convaincue que c'est un projet qui plaît. Il y a un énorme marché sur le sac à dos, ça c'est sûr, mais par contre sur ce sac à dos spécialement conçu pour le backpacking, là c'est vraiment une porte ouverte et je vais me battre pour arriver au bout du projet.
Ce projet pour être financé, en fait, votre fournisseur vous propose de créer 150 sacs. C'est là un petit peu le problème, c'est que 150, c'est difficile à écouler.
Oui, c'est difficile à écouler 150 sacs, mais c'est surtout difficile, vu qu'on débute, qu'on est une jeune start-up, on apprend et c'est beaucoup plus difficile d'avoir une visibilité sur la communication. C'est vrai qu'on comptait beaucoup sur Kickstarter. Et au final, peut-être, vu qu'on est une jeune start-up, ils ne nous offrent pas autant de visibilité qu'on le pensait. Donc, on devra peut-être plus travailler sur la communication.
Les matériaux utilisés pour ce sac, vous les avez choisis comment ? Ils viennent d'où ?
Pour décider des tissus, j'ai fait pas mal de recherches. Et sur Internet, c'est toujours difficile de sentir la matière à travers un écran. Alors, j'ai commandé une centaine d'échantillons chez un magasin en Allemagne. Alors je les ai reçus et je les ai regardés un à un et je suis tout de suite tombée amoureuse du Cordura avec ce tissu réfléchissant. C'est vraiment le sac. À partir du moment où j'ai ouvert le paquet du Cordura, j'ai décidé que ce serait celui-ci.
Et donc si ça marche, votre fournisseur va venir de l'Allemagne ?
Alors le fournisseur du tissu viendra certainement d'Allemagne, mais pour la production du sac à dos, on n'est pas encore extrêmement sûr du fournisseur qu'on aura. Mais une chose est sûre, c'est qu'on peut compter sur un fournisseur où il y a une traçabilité du textile qui garde une éthique.
La traçabilité du textile, c'est quoi ?
La traçabilité du textile, c'est le fait de pouvoir suivre le textile. On peut vraiment savoir d'où il vient, qui a travaillé dessus, combien d'heures. C'est vraiment, tout est ouvert, il n'y a pas de secret.
C'est quelque chose d'important pour vous ?
Oui, j'ai vraiment envie d'avoir un sac qui est respecté dans les normes et d'avoir cette éthique. Et j'ai envie vraiment de pouvoir miser sur une qualité, une très bonne qualité. Et après, nous avons choisi quand même de garder le Swiss Design, car effectivement, le design a été fait en Suisse, à Lausanne.
Vous parlez de qualité, d'être sûr de votre produit. Est-ce que ça veut dire que vous allez aller sur place, chez votre fournisseur, pour vraiment contrôler que la production se passe en bonne et due forme ?
Alors oui. On compte absolument faire ça. Si on arrive à la somme désirée, nous irons directement chez notre fournisseur pour voir les ouvriers, pour pouvoir exactement savoir comment ça se passe et pouvoir retravailler le projet, les modifications à faire pour vraiment arriver à une qualité qu'on attend.
Comme chaque semaine, il est l'heure de parler de montres. La chronique horlogère est signée Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
C'est un nom qui compte dans l'horlogerie depuis des années, c'est presque une légende, comme Elvis Presley pour le rock'n'roll. You ain't nothing but a hound dog, girl. C'est lui qui, au début des années 1980, a largement contribué à relancer Blancpain, alors que la marque n'existait pratiquement plus depuis 1959. Il a repris les rênes de la marque Hublot en 2004, en lui permettant de connaître un succès inespéré et durable. Il est actuellement le directeur de Tag Heuer et assurait jusqu'au mois dernier la direction ad intérim de Zenith. Il est aussi le responsable du pôle horloger du groupe de luxe français LVMH. Cette personne, c'est Jean-Claude Biver. Comme vous vous en doutez, le monsieur est bien occupé. Alors, est-ce qu'il pense horlogerie 24 heures sur 24 ou arrive-t-il à déconnecter de temps en temps, Jean-Claude Biver ?
En fait, j'ai deux religions, j'ai deux dieux. Un dieu qui s'appelle l'amour et j'ai un dieu qui s'appelle la nature. Et je suis guidé par la nature et je suis guidé par l'amour. Eh bien, quand je rentre chez moi, je suis un privilégié et j'ai le privilège d'avoir une maison où nous avons également une ferme. Quand j'ouvre mon portail et quand je vois la basse-cour et que je ne peux pas rouler vite parce que j'ai mes canards, j'ai mes dindes, j'ai mes oies et mes poules qui sont sur mon petit chemin, eh bien le fait que je dois rouler à 2 à l'heure pour n'en écraser aucun, ça me met immédiatement dans l'ambiance de la maison. Donc je décroche, même si je ne fais pas exprès, je décroche automatiquement. Et ça, c'est le privilège de l'endroit où j'habite. J'habite à la Tour de Paix, c'est près de Vevey. Et donc, je décroche extrêmement facilement de mes soucis, de mon travail. Et quand j'arrive, évidemment, quelques minutes plus tard dans ma maison et que je vois ma femme, mes enfants, je suis totalement décroché. Ce qui ne veut pas dire qu'avant d'aller me coucher, que je ne regarde pas mon ordinateur et que je ne réponde pas aux derniers mails, ce qui ne m'empêche pas de me lever très tôt, vers 3h, 3h30 du matin, pour travailler. Mais si vous voulez, le moment où j'arrive chez moi, je n'ai aucun souci de décrocher.
Le cadeau réservé aux clients et visiteurs des marques horlogères dirigées par Jean-Claude Biver n'est pas comme partout ailleurs un foulard pour madame et un portefeuille pour monsieur. C'est un morceau de fromage, de Letiva, fabriqué avec le lait des vaches de Jean-Claude Biver. Mais est-ce qu'il met lui-même la main à la pâte pour la fabrication ?
Non, je ne mets pas la main à la pâte, comme je ne fabrique pas des montres non plus. Je comprends, j'ai de la compassion pour le monde agricole. J'aime le monde agricole, je respecte le monde agricole. Le travail d'un agriculteur, c'est extraordinaire, c'est énorme. C'est 24 heures sur 24, surtout des vaches laitières. Mais maintenant, il faut que je sois honnête. Bien sûr, je fais du folklore, je peux aller chercher les œufs, hein. Mais je ne fais pas moi-même ni du fromage, je ne traite pas moi-même les vaches. Éventuellement, comme je vous ai dit, je vais chercher les œufs dans le poulailler.
Qu'il est blanc, qu'il est crème ton fromage, dis, donne-nous-en un peu, Belle des Champs.
Pile à l'heure.
On arrive au terme de cette émission. Comment est-ce que vous allez faire pour continuer à vous faire connaître dans la région et au-delà, Aurélia von Almen ?
Eh bien, pour l'instant, on va continuer à faire des présentations du sac à dos, que ce soit dans des magasins ou dans des boutiques, ou peut-être même à la place du marché ou au bord du lac. Donc vraiment montrer le produit aux personnes qui puissent vraiment le voir, le sentir, le toucher. Et ensuite, on compte quand même pas mal sur les réseaux sociaux, effectivement. J'ai eu pas mal de personnes qui ont entendu parler du sac, qui m'ont dit qu'ils l'avaient vu sur Facebook, sur Instagram. Et c'est vraiment un chouette atout d'avoir les réseaux sociaux pour ça.
Les réseaux sociaux, c'est un petit peu l'avenir de la communication, c'est ça que vous dites ?
Oui, je pense que ça peut être l'avenir de la communication, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres moyens de communiquer, comme la radio, la télévision. Donc, je pense qu'il y a vraiment plusieurs domaines à toucher encore, en plus des réseaux sociaux.
Maintenant que la machine est lancée, que vous avez lancé ou du moins créé un premier sac, est-ce que vous avez envie d'en créer d'autres ? Peut-être pas des sacs de backpacker, mais d'autres types de sacs ?
Alors oui, c'est vrai que maintenant que j'ai commencé à faire des sacs à dos, j'ai pensé à en faire d'autres, peut-être pour les enfants ou des sacs à dos plus de lifestyle, pour la vie de tous les jours. C'est vraiment un domaine qui m'intéresse et j'aime beaucoup coudre, j'aime avoir... de l'imagination, de la création. Donc, par la suite, dans un futur proche, j'aimerais bien continuer à faire des sacs à dos.
Sortie de boîte, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions en compagnie d'Aurélia von Almen qui a créé son propre sac pour les Globetrotters. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous retrouvez l'émission dans son intégralité sur notre site durant le courant de la soirée avec des photos de ce sac koala. Aurélia, bonne soirée.
Merci, bonne soirée, au revoir.
Sortie de boîte.